Alors, je ne sais pas si elle va aller ou si elle est déjà allée au Brésil, la Pinky, la Panthère Rose. Bonjour Dominique.
Bonjour les amis, amis du bout des ondes, bonjour. Et 1, et 2, et 3. Non, c'est pas tout à fait ça.
3-0, oui.
Et 3-0, bah, c'est ce qu'on peut souhaiter à notre équipe de France de foot.
Bah, au moins 3 hein. matchs, hein, ouais, de toute façon, 3, c'est sûr déjà.
Et nous, les cramés de la bobine, bien qu'étant supporters inconditionnels de l'équipe
mais
de France de foot.
Mais c'est pas un pays
football.
Qui va être présent à la Coupe du Monde. Ils ont plus de spécialités dans d'autres sports, le cricket,
beaucoup
je crois.
Ouais, le cricket notamment.
Et ouais, il reste toujours des traces du colonialisme.
Voilà, c'est ça. Et effectivement, cette semaine, il s'agit d'un film indien qui s'appelle « Avant l'aube ». C'est un film de Balaji Kumar qui a tout de suite une première particularité, c'est que ce film a été entièrement tourné en tamoul. Et le tamoul, c'est une langue notamment parlée dans l'état du Tamil Nadu et aussi sur le territoire de Pondichéry. Et alors ce qui fait qu'à Pondichéry, c'était un port et donc cette langue a été exportée en fait. Et on la trouve notamment comme langue officielle de Singapour. Au Sri Lanka, et puis en cherchant un petit peu, j'ai vu que ben, quand même le tamoul, on parlait tamoul en Birmanie, en Malaisie, et dans même en Europe et en Amérique du Nord.
Il y avait beaucoup en France, hein, dans certaines régions, voilà. Notamment en région parisienne, il y a
exactement.
Une communauté
importante. Et alors, ça représente, cette langue tamoul, 61 millions de personnes en Inde qui parlent tamoul. Voilà. Donc ce film...
La population française.
À peu près. D'ailleurs, on va tout à l'heure évoquer les populations et on verra que c'est absolument gigantesque. Donc ce film, Avant l'aube, ce film indien qui est sorti le 30 avril 2014, et donc sur les écrans de l'Altitiné à travers l'association Les Cramés de la Bobine. Et ce film, c'est un thriller noir qui va certainement scotcher le spectateur à son fauteuil. Et autant prévenir tout de suite, ce film comporte des séquences plutôt violente, suggérée ou développée, et pourrait choquer des personnes sensibles. Je crois que c'est pas vraiment le style habituel des cramés de la bobine, mais cette fois-ci, ce film indien a des particularités violentes. Bon, il faut mieux prévenir nos spectateurs, et ensuite, ils viennent en connaissance de cause. L'histoire de ce film, où, en fait, c'est une nuit, une femme et une petite fille qui s'enfuit, courant et zigzagant entre les plaques d'eau, entre les flaques d'eau, pour chasser quatre hommes qui semblent être méchants, prêts à tout pour les retrouver, des mines patibulaires, des tons cuivrés, des cheveux plaqués sur la tête. Enfin bon, ils sont, semble-t-il, redoutables, ces gens-là. Qui sont cette femme et cette petite fille? Qui sont ces fameux assaillants? Et quels sombres et mystérieux liens les relient? Alors, pour voir ça, et on va déjà tout de suite prendre écoute de la bande-annonce de notre film Avant l'aube.
Varika, enna veno, kela.
Enakku, neenga oru udavi pannanum.
Kaila semma matter onnu irukku. Nee mattum manasu vechana, life maaridum.
பன்னெண்டு வயசுனா அது குழந்தை பொண்ணு இல்ல
சார். பாம்பே காலேஜ் ஏதாவது ட்ரெயின் போச்சா?
என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா?
இவ யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும்.
நான் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்.
Voilà, donc cette bande-annonce en tamoul. Hein.
Oui, en tamoul, sous-titré en français.
Sous-titré en français, on rassure.
Merci beaucoup, monsieur le sous-titreur. Alors, ce film Avant l'aube du réalisateur Balaji Kumar, c'est un film un peu noir dans l'histoire, aussi dans les teinte dominante de façon de filmer. C'est un film qui est un peu glauque, quoi, traitant de la perversité. Alors, c'est peut-être une charge, finalement, contre une certaine société indienne. Parce que ce qu'on voit dans ce film, c'est quand même comment des gens très, très, très riches, mais immensément riches, peuvent exploiter sans aucun état d'âme la fragilité des enfants, l'utiliser comme des objets, pratiquement, dans un environnement de violence, où le respect de la loi n'existe pas. Il n'y a pas de loi, quoi, en fait. A priori, ils ne seront jamais punis, ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent. Et... Donc alors, ils profitent un peu de cette petite enfance qui est lâchée un peu à l'aventure, à l'abandon. Et c'est vraiment des situations extrêmement pénibles et laides, impossibles à imaginer. Alors, je voudrais quand même ajouter que ce n'est pas un film sur la pédophilie. Hein, c'est très important, mais bien sur la perversité et le non-respect du droit des enfants.
Alors justement, il y a une convention internationale du droit des enfants qui est, pour certains pays, appliquée stricto sensu, puis pour d'autres, ouais. C'est un peu...
Alors, c'est tout à fait opportun de venir parler du droit des enfants. Il y a 8 droits fondamentaux. Il y a le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation, le droit à la sécurité, le droit à l'eau, le droit à l'identité, le droit aux libertés et le droit à la protection. Et je voudrais quand même ajouter que l'un des pays asiatiques les plus touchés par ces problèmes des droits aux enfants et de non-respect plutôt, c'est bien sûr l'Inde, et qui a plus de 400 000 enfants répertoriés, donc des enfants qui sont complètement abandonnés, pratiquement. Et en fait, ces chiffres ne sont que des estimations, parce qu'on peut bien sûr pas le comptabiliser d'une façon certaine. Ce qu'il faut aussi mettre en parallèle, c'est que l'Inde, c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde. Et il y a 1,270 milliard d'habitants. Plus de 1,270 milliard, c'est énorme. Une ville comme Bombay, qui n'est pas la capitale, hein, mais une ville comme Bombay représente plus de 12 500 000 habitants.
Petite mégalopole.
Et l'agglo avec des villes qui viennent se graviter autour, donc ça fait plus de 18 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on est pratiquement...
Une fois et demie la région parisienne.
Ouais, c'est ça, c'est absolument colossal. Mais on pourrait même dire que c'est presque un petit tiers de la population française. Hein. C'est quand même... on peut d'un seul coup se rendre compte que nous sommes dans un contexte complètement différent. Et puis, ce pays est aussi gigantesque. Il y a plus de 3 millions de kilomètres carrés. Donc, la répartition et la densité est quand même assez élevée aussi, après tout. Hein. Bon, voilà. Donc, en référence, la France, c'est un bon 500 000 kilomètres carrés. Hein, c'est ça, quoi.
550 000
voilà.
kilomètres carrés.
Bon, donc, voilà les rapports. Alors,
c'est vrai que vous parlez des droits des enfants, mais quand on voit le droit des femmes aussi dans ce pays, qui est malheureusement l'un qui est souvent sous les feux de l'actualité, oui. Où des femmes sont violées en toute impunité.
On a eu récemment des exemples avec des peines de mort quand même contre les, mais bon, c'est vrai, mais vous touchez vraiment le point sensible de ce sujet, c'est qu'en fait dans le droit des enfants, les premiers visés et le non-respect, ce sont notamment le droit de la vie, et c'est les infanticides pratiqués en toute impunité, et surtout les infanticides de femmes. Oui. Voilà. Et puis le vecteur le plus important pour cette transformation, pour ces pauvres enfants indiens, c'est la pauvreté. La pauvreté va les mener à une forme de déchéance et être récupérée par des malsains, bien sûr. Hein. Et il y a bien sûr aussi le droit à la santé. Il faut savoir qu'il y a plus de 2 millions par an de décès d'enfants, dont 20% de moins de 5 ans. Moins de 5 ans, 20%.
On n'est pas au 2e siècle, hein, on rappelle. Non, non. 21e siècle.
Et puis, il y a un autre problème, pour les enfants, c'est le droit à l'eau. L'assainissement est insuffisant, voire de mauvaise qualité. Donc, il y a des empoisonnements.
Vecteur de maladie, bien sûr.
Et puis, il y a autre chose, et ça, on devrait en être extrêmement conscient, c'est le travail des enfants.
Oui.
Aujourd'hui, plus de 60 millions d'enfants sont obligés de travailler en Inde, dont plus de 12 millions en état de servitude. Hein.
Ouais.
Et le film que nous présentons laisse cette image, ce sous-entendu apparaître. On n'est pas loin d'y être dedans, quand même. Hein.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'il y a des pays où, quand on a 10 ans, eh bien, à 10 ans, on est un travailleur forcé.
Ouais, ouais.
C'est incroyable.
C'est épouvantable. Hein. Et puis, le dernier élément des droits des enfants, bah, c'est qu'on on marie les enfants très tôt en Inde, à 10 ans, 12 ans, parce que ça fait une charge en moins pour la famille.
Voilà.
C'est épouvantable. Hein.
Ouais. Non, c'est
bon. Donc voilà. Donc, ce que je voudrais dire de ce film, c'est qu'à travers ce développement sur le droit des enfants, on est quand même dans ce cas de figure. Et même si on ne va pas si loin, les images ne vont pas si loin, elles sont quand même sous-entendues et explicites. Hein. Et dans ce film, on va revenir directement au film Avant l'aube. Eh bien, il y a, durant la projection, on voit apparaître sur l'écran des bandes de texte expliquant les côtés néfastes du tabac. Bah, l'acteur prend une cigarette, l'allume, aussitôt il y a une bande qui vient sous l'écran et on voit écrit en tamoul que c'est interdit et en anglais. Bon, c'est pas bon pour la santé. Et puis lorsqu'il se sert un verre, aussitôt, hop, il y a une petite bande qui va défiler sur l'écran. Et à chaque fois, hein, donc on la voit peut-être 10 fois, 15 fois dans le film, c'est pas bon de fumer, c'est pas bon de boire de l'alcool, voilà. Et j'ai beaucoup évoqué ce côté un peu violent et fort et mystérieux du film, et je voudrais dire qu'il y a aussi un élément qui vient parfaitement amplifier le phénomène, c'est la musique. La musique accompagne toutes les scènes de façon assez extraordinaire.
C'est lourd, non ?
Oui, et ça amplifie le phénomène. Ouais, alors les musiques sont d'un garçon qui s'appelle Girish Gopalash Krishnan, donc voilà. Vous connaissiez bien, n'est-ce pas, mon cher William ?
On a étudié ensemble.
Et donc il amplifie les effets mystérieux de l'histoire et les effets visuels. Hein. Voilà. Et alors, on va peut-être quand même parler un petit peu du casting de ce film. Le réalisateur, il s'appelle Balaji Kumar, c'est un Indien qui a une forte influence anglaise au moins. Pardon. Qui en est à son, vraiment son premier grand film, son premier film. Et ce monsieur a travaillé 6 semaines sur le scénario en l'écrivant en anglais. Et ensuite, il a mis plus d'un an pour le transcrire en tamoul, qui est quand même sa langue de naissance.
Hein.
Donc, sinon, la filmographie est limitée. Et quand j'ai cherché un peu de donner les acteurs, bah évidemment, la dame qui joue le rôle de cette femme qui va accompagner cette petite fille, elle s'appelle Pooja Umashankar. Mais bon, on sait qu'elle est à son 4e film et qu'on on l'a pas vue apparaître sur les écrans français. Et quant à la jeune fille, parce que je la trouve assez extraordinaire, elle a un joli sourire, elle est vraiment attendissante, comme c'est pas possible, elle est brune, bien sûr, et elle s'appelle Vinos Kishan. Voilà. C'est le film Avant l'aube, les séances, c'est traditionnellement, ça commence le jeudi, hein. Les suivantes, c'est le dimanche en fin d'après-midi, on retrouve le lundi en tout début d'après-midi une séance, et puis ce mardi à 20h30, il y aura la séance à l'Altice Ciné qui sera suivie d'un débat, une présentation et un débat, et qui sera animée par Georges Jonio. Donc voilà un peu ce
bon,
film.
Qui permet de prendre conscience de certaines réalités sociales et en l'occurrence certaines réalités des enfants dans certaines parties du monde, et notamment
c'est l'histoire donc cette petite fille qui va être emmenée dans un contexte très particulier. Je voudrais faire un entracte musical. On va prendre une grande respiration, hein, et puis on va écouter l'histoire de la petite fille de Claude Nougaro.
Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée, et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la scène? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Tu m'aimes vraiment, dis-moi. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. C'est tout ce qu'elle sait dire. En pouffant, en rasant, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie. Où est-elle, nom de Dieu? Elle a dû remonter par la rue de Rivoli. J'ai de la flotte plein les yeux. Parce qu'elle avait rêvé, je ne sais quel amour absolu éternel. Il faudrait ne penser, n'exister que pour elle, chaque nuit, chaque jour. Voilà ce qu'elle voudrait, seulement il y a la vie, seulement il y a le temps. Et le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant. L'amour, son bel amour, il ne vaut pas bien cher contre un calendrier. Le battement de son cœur, la douceur de sa chair. Je les ai oubliés. Où donc est-elle partie? Voilà qu'il pleut des cordes, mon Dieu, regardez-moi. Me voilà comme un con, place de la Concorde. Ça y est, je la vois. Attends-moi! Attends-moi!
Voilà, c'était Claude Nougaro.
Ouais, qui a lui une petite fille avec une vie bien plus envieuse.
Céline.
Et jolie que cette histoire de, ouais, que celle de notre Avant l'aube. Et bien, les Cramer de la Bobine, on continue la semaine prochaine avec un film qui va traiter un fait historique, fortement inspiré au moins. C'est, le film s'appelle D'une vie à l'autre et c'est un film germano-norvégien de Georges Maas. Je voudrais simplement expliquer deux mots sur ce film et je voudrais vraiment que... C'est un élan formidable qui est intéressant. Pendant la guerre, des Norvégiennes ont eu des rapports avec les nazis. Et les enfants ont été récupérés pour la race et placés dans des centres. Donc tout bébé, donc les mères les perdaient, c'était fini. Et puis la guerre s'est finie, il y a eu ce conflit qui s'est installé. Et puis c'est devenu la RDA, et la RDA, la Stasi a repris en compte les enfants, les ont continué à les éduquer, on va dire. Et après, on les lâche dans la nature. Bon, alors voilà, c'est un peu le thème du film. C'est formidablement bien fait, c'est bien, bien joué. Et on revoit avec plaisir, depuis 10 ans, une actrice qui avait disparu des écrans, c'est Liv Ullmann. Qui est une actrice assez formidable, qui joue le rôle de la grand-mère. Il y a 3 générations de femmes dans ce film, et on commence dans l'Europe en 1990. Donc, j'en parlerai beaucoup plus la semaine prochaine, ce film. Donc, c'est à partir de jeudi prochain, D'une vie à l'autre, un film germano-norvégien de Georges Maas. Et puis, vous savez que depuis quelques temps, je parle beaucoup de films La Cour de Babel, qu'on va présenter notamment le lundi 23 juin à 20h30. Un documentaire de Julie Bertuccelli qui sera agrémenté de la présence et des commentaires du directeur du collège qui a reçu ses enfants pendant 1 an, ses enfants qui venaient des 4 coins du monde et qui n'avaient pas la maîtrise du tout de la langue française et qui vont créer à travers leur bulle un esprit assez extraordinaire. On part de ce film heureux en se disant que peut-être bien il y a une issue à un monde épouvantable. En les regardant, peut-être que ça pourrait être mieux. Et je fais le lien simplement entre cette classe et puis ce qui se passe dans le film de Avant l'aube tout à l'heure, où tout le monde n'est quand même pas placé au même niveau. Ouais. Voilà, donc c'est l'actualité directe de nos Cramer de la Bobine. Je vous souhaite à tous une belle continuation, une bonne semaine, hein, une bonne Coupe du Monde pour certains.
Pourquoi vous regardez
comme ça? Et puis, vive le cinéma!